chères toutes, chers tous, chères parties prenantes, parce que le féminin désormais englobe le masculin et ça permet d'éviter les délices de l'écriture inclusive, nous sommes ravis collectivement avec nos partenaires, avec nos mécènes, avec l'ensemble des institutions, d'ouvrir au nom de la chaire Recette, réseau électrique et société en transition, mais l'électricité étant une forme d'énergie et non une source d'énergie, nous avons bien ici une perspective énergéticienne, un colloque qui est tout à fait original parce qu'il est certes académique, mais il est en même temps tourné vers les entreprises de services publics, ces entreprises de services publics qui peuvent être ou non des ELD, qui peuvent être en même temps donc des gestionnaires de réseaux de distribution qui ont une vocation territoriale qui s'est progressivement complexifiée. Et surtout, nous avons également dans l'assistance des professionnels, des jeunes chercheurs, des étudiantes et étudiants de master. Donc cet amphithéâtre est particulièrement plein et on s'en félicite. Le prétexte au sens littéral du terme, la cheville ouvrière du colloque étant Rémi Lunk, qui a été le premier chargé de projet de la chaire Recette, le second étant Jordan Provost et le troisième actuellement Jean-Baptiste Gouasque, qui a été aussi aux manettes et qui est ici présent comme organisateur. Mais la cheville ouvrière, eh bien Rémi Lunk, qui réalise une thèse CIF sous ma direction, mais dans le cadre auprès de Régaz, Bordeaux, Métropole, Énergie et Éric Dastarac. Donc, contribuera à l'ouverture après notre mécène, le mécène de la chaire Recette Enedis, Thierry Gibert, directeur régional Aquitaine Nord, et nous développons un partenariat depuis le congrès de la FNCCR de Tours. Je sais que Stéphane Houllier, par rapport à la dimension girondine, n'oublions pas donc les collectivités concédantes, n'oublions pas ces différents partenaires. Donc Rémi Lunk qui réalise une thèse chiffre sur les ELD, sur la transition énergétique, sur les entreprises gazières, sur la transition gazière, et qui a été à l'origine de ce colloque et qui est la cheville ouvrière de ce déploiement. Le prétexte, et cela nous renvoie à un colloque précédent qui se tenait donc dans l'amphithéâtre de Régaz, avec la célébration, le centenaire de l'arrêt Gaz de Bordeaux 1916, donc sur les imprévisions. Le prétexte, c'est au fond le centenaire de la création de la régie municipale du gaz et de l'électricité, service public croisé, dont nous avons ici les deux héritages combinés. Nous avons l'électricité et le gaz dans les croisements. C'est ce que nous montrera aussi Anne Dalmasso, on y reviendra dans une contribution où elle croisera les différentes données. Et surtout, cet entrelacement des réseaux, cet entrelacement du patrimoine, cet entrelacement des énergies de Bordeaux, nous le retrouverons aussi demain matin. Vous êtes tous les bienvenus pour une visite très très originale de patrimoine industriel. Donc le patrimoine industriel donc de Bacalan, qui se fera en deux visites demain samedi matin, mais on reviendra sur les éléments organisationnels. Je voudrais juste remercier bien entendu nos deux mécènes, parce que la chaire Recette, elle déploie, vous avez des magnifiques plaquettes, elle déploie depuis plus de 2 ans, bientôt 3 ans, une intense activité de recherche-action avec désormais une communauté d'étudiants-chercheurs qui ne sont pas que des historiens économistes, qui sont des médiateurs des sciences, je salue Boris Urbas, qui sont des sociologues, on a des sociologues présents également à la tribune et des docteurs, qui sont désormais aussi un ou deux économistes, même si le cœur de la chaire, je salue Yannick Long, compagnon de route et avec qui nous avons beaucoup travaillé sur les logiques spatiales et l'innovation et les trajectoires de l'innovation. Donc au fond, c'est une communauté d'apprentis-chercheurs qui a fait ses preuves sur les terrains girondins, sur les terrains périgourdins, sur les terrains du Lot-et-Garonne. Donc dans une conception traditionnelle de l'Aquitaine, mais de plus en plus, donc néo-Aquitaine, et sur des thématiques, bien entendu, la réception des compteurs Linky, l'autoconsommation, la précarité, le déploiement des réseaux, l'acceptabilité des réseaux, et nous allons avoir d'ailleurs des formes de coopération également à l'échelle des réseaux de transport d'électricité. Marc Beaulieu n'est peut-être pas encore arrivé dans la salle, mais ne va pas tarder, donc nous développons ce type de recherche. Je reviens sur le centenaire à la régie municipale d'électricité du gaz de Bordeaux. Nous aurons le spécialiste et mon collègue et néanmoins ami, donc Alexandre Fernandez, qui a consacré sa thèse et pas mal de travaux à la fois à l'échelle bordelaise et à l'échelle donc plus large. Et il présentera avec Rémi Long, effectivement, cette présentation, cette trajectoire, cette histoire qui sera comparée dans une table ronde. Je termine, parce que le plus important, c'est la bonne parole des deux mécènes et partenaires qui ont réalisé ici un partenariat, donc une convention, une joint venture, une synergie, une symbiose, une fertilisation croisée, tout ce que l'on veut, vocabulaire tiré donc de l'innovation, autour de la chaire recette qui quand même rayonne, qui est connue. Nous avons des activités désormais à l'échelle parisienne internationale, avec Patrick Bem, avec en même temps le Chief Project, avec également des possibilités de collaboration avec la régulation énergie, avec M. Glachan à Florence, donc une chaire qui essaime. Mais la spécificité de ce colloque, et c'est le plus important, le titre, mais je ne vais pas, je sais qu'il y a des commentaires sur la ponctuation, je rappelle, après au moins 3 mois de maïeutique, énergie au pluriel de Bordeaux, quelle histoire singulier pluriel, point d'interrogation, point d'exclamation. Donc, j'insiste, history matters, geography matters, economy matters, tout est important. Et sur la dimension géographique, on y reviendra. Je rappelle que l'on a bien ici une articulation, une communauté de recherche, mais la géographie, c'est à la fois la spatialisation directe, c'est aussi la construction des territoires d'énergie. Ce n'est pas pour rien si certaines institutions désormais s'appelle la FNCCR à décliner territoire d'énergie. Et c'est aussi donc l'aménagement. On sait très bien que à l'université, on distingue géographie et aménagement, et que ce sont des schémas d'aménagement régional pour les différents réseaux. Donc bienvenue à tous dans votre diversité. J'ai suffisamment parlé, je reparlerai après dans la trilogie. J'insiste, oui, le plus important, cette chaire n'existerait pas sans Cyril Abonnel, qui est le co-coordinateur de la chaire, mais qui fait le travail véritablement sur le terrain, au moins de 10 professeurs associés de l'université, qui est adisciplinaire, parce qu'il est capable, il va d'ailleurs entamer certains travaux, donc l'histoire économique sous ma direction donc également, mais il anime depuis 2 ans, 3 ans, donc cette chaire, et il donne une diffusion des séminaires de réflexion et de formation. On n'oublie pas l'accueil que l'on a reçu, bien entendu, à Bordeaux Métropole Énergie à Régas. Donc la parole est d'abord à Thierry Gilles, puis à
Eric. Merci Christophe. Écoutez, c'est un plaisir pour moi. Je suis très heureux d'être là, de prendre la parole dans cette enceinte, dans cette amphi qui me ramène quelques décennies en arrière. C'est longtemps que je n'avais pas mis les pieds dans un amphi. Un grand merci à chacun d'entre vous d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci naturellement à tous les intervenants qui ont répondu à nos sollicitations pour venir cette journée, nous faire part un petit peu de leur vision des choses. Je suis persuadé qu'ils contribueront naturellement à une journée riche et instructive pour chacun d'entre vous. Je tiens aussi à féliciter Rémi, hein, et puis Christophe, et Cyril. Je regarde, tu fais le travail de 10, mais c'est pas la peine de demander une augmentation de 10 dans les jours qui viennent. On en reparlera un peu plus tard. Non, félicitations à vous. Cette manifestation et la chaire n'auraient pas pu se tenir sans votre initiative et votre investissement pour l'organisation de cette journée. C'est vrai que dès qu'on a évoqué cette journée, quand j'ai vu le titre, encore récemment, le premier motif de félicitation, c'est déjà sur le titre. De te le remettre, oui, voilà, Énergie de Bordeaux, Énergie de Bordeaux, Énergie au pluriel, hein, puisqu'on va parler d'électricité et de gaz. Deux énergies au destin à la fois parallèle et entrelacé et croisé, c'est pas le moindre des paradoxes, hein, qui justifie à lui tout seul de nombreuses histoires et de belles histoires. Et puis les deux points, enfin deux ponctuations. Je répète, puis j'en ai parlé tout à l'heure à Rémi, je répète commencer par le point d'exclamation qui pourrait être un point d'admiration quand on fait encore une fois la rétrospective de tout ce qui s'est passé sur le bassin bordelais en matière d'énergie, que ce soit de l'électricité ou du gaz. Et puis pour moi, le point d'interrogation, c'est effectivement l'avenir. Et maintenant, l'avenir, évidemment, qui génère beaucoup de questions. Parfois, me semble-t-il, à tort, beaucoup de... à tort, ça dépend de son niveau d'optimisme, mais qui peut générer parfois beaucoup d'inquiétude. En tout cas, moi, ce que je crois et ce que j'ai apprécié, c'est la proximité de ces deux ponctuations. Moi, je crois que je suis intimement convaincu que tout travail de prospection est beaucoup plus riche, beaucoup plus fécond s'il s'inscrit dans une dynamique historique qui permet de bien contextualiser les choses, qui permet de comprendre comment les choses se sont construites, et dans le domaine de l'énergie, comment se sont construites ces valeurs de service public, basées sur des valeurs de solidarité, de mutualisation et de partage. Et je crois que, encore une fois, ce travail de prospection s'enrichit d'un regard sur ce qui s'est passé et dans la façon les choses ont été construites, et la façon dont on envisage leur évolution dans les années à venir. Alors, quelques mots sur la chaire RICET, réseau électrique et société en transition. Le terme sur lequel j'insiste beaucoup, c'est le mot transition. Notre société, notre époque actuelle est traversée par de nombreuses transitions. J'ai coutume d'en citer au moins trois qui, d'un point de vue, sont fondamentales. La transition énergétique, naturellement, avec le réchauffement climatique. Tous les acteurs qui travaillent de près ou de loin dans le monde de l'énergie, je peux vous dire, sont pleinement mobilisés pour réussir cette transition énergétique, que ce soit localement ou au niveau national ou, j'allais dire, même à l'échelle planétaire. La transition digitale et numérique, avec beaucoup d'outils nouveaux qui arrivent, alors dans le domaine de l'énergie, ça prend de nombreuses formes. Tu as évoqué le déploiement des compteurs Linky, enfin les compteurs communicants, c'est la même chose en gaz. D'ailleurs, ces compteurs communicants sont aussi dans beaucoup d'autres fluides, hein, et pas seulement le domaine de l'énergie. Je crois que les apports du compteur Linky ou du compteur gaz Gaspard, je ne sais pas comment ça s'appelle le site d'avis repris.
Datagaz,
excuse-moi. je crois qu'on n'a pas encore bien perçu quels seront les apports, en particulier de la numérisation dans le domaine des comptages. Moi, je peux vous affirmer que les services nouveaux qui vont arriver, qui sont là déjà, hein, ce n'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui, d'ores et déjà, vont changer radicalement le rapport de tous les consommateurs d'électricité et des citoyens, le rapport à l'énergie. Le numérique, c'est aussi l'intelligence artificielle. Nous travaillons beaucoup sur ce sujet-là et déjà beaucoup d'applications d'intelligence artificielle viennent percuter nos métiers dès à présent, et ce sera également un virage important, pour ne pas dire fondamental, dans les années qui viennent. Puis la troisième transition que j'évoque volontiers, c'est la transition un petit peu sociale, sociétale, avec de nouvelles formes de consommation, avec une nouvelle forme de citoyenneté, avec une nouvelle forme de sociabilité à travers les réseaux sociaux. Et dans le domaine de l'énergie, c'est l'apparition d'un nouveau concept, qui est celui du conso-acteur, du conso-producteur, où la même personne est alternativement un consommateur, mais aussi un producteur, avec l'installation de panneaux photovoltaïques, hein, sur son toit, c'est-à-dire un producteur d'énergie renouvelable décentralisée. Et finalement, on est un tout dans ce système, en étant à la fois au début de la chaîne de ce système et à la fin en tant que consommateur. Et donc, Enedis, naturellement, travaille depuis longtemps sur l'ensemble de ces transitions, en nouant des partenariats, que ce soit des partenariats académiques ou des partenariats industriels, pour travailler sur les réseaux du futur, pour travailler sur, encore une fois, l'intelligence artificielle, pour travailler même sur les modèles économiques à construire autour de ces évolutions technologiques, sans jamais oublier, parce que c'est souvent un peu le grief qu'on peut nous faire, nous qui sommes des sociétés plutôt, des entreprises d'ingénieurs, sans jamais oublier que ces évolutions technologiques ne doivent jamais oublier qu'au centre, il y a l'humain, et que toutes ces évolutions doivent permettre, encore une fois, de développer cette notion de solidarité. Alors, c'est la raison pour laquelle, en 2016, lorsqu'on discutait avec Christophe, à l'occasion, effectivement, d'un projet de la FNCCR, avec Cyril, on s'est dit que ça serait intéressant de créer sur Bordeaux une chaire centrée sur ce qu'on appelle les humanités, et qui réfléchirait, j'allais dire en toute modestie, aux évolutions à venir de cette notion de service public. Quelle forme pourrait-elle prendre au XXIe siècle dans le domaine de l'énergie et des réseaux, dans ce contexte de transition énergétique et dans ce contexte de transition numérique? Et l'option que nous avons prise, c'est d'installer cette réflexion dans l'interdisciplinarité avec des étudiants venus du domaine de l'histoire, de la sociologie, de la médiation des sciences, des médias, et même de temps en temps, Cyril y ajoute parfois une couche de philosophie. Peut-être une idée, peut-être qu'on pourrait associer en plus de toutes ces disciplines des étudiants qui travaillent dans cette matière-là. Pardon ? Oui, je pense que ça serait intéressant. Voilà. Et je crois que cette interdisciplinarité, c'est ça qui fait la force de la chaire. Je pense, j'espère que vous la retrouverez aussi dans l'ensemble de ces tables rondes. Et je pense que cette interdisciplinarité, je vais y arriver, vous permettra de passer une excellente journée, riche, intéressante, pétillante et enrichissante. Merci à vous.
On vient de me prévenir qu'il me restait 28 secondes pour vous parler.
Non, mais donc on va faire très bref.
Voilà, je voulais juste en quelques mots vous dire que donc, le groupe que je représente, Bordeaux Métropole Énergie, est un groupe plus que séculaire. Hein. Là, on a fait un focus sur les 100 ans de la régie, mais on peut presque rajouter encore 100 ans si on veut aller chez nous très loin dans l'histoire. Donc cette construction, elle s'est faite au fil du temps, et je voulais remercier Rémi pour son travail, parce qu'aujourd'hui nous on est beaucoup plus dans le présent et surtout dans l'avenir que dans le passé, et on n'a pas du tout le temps de se retourner sur notre histoire qui est pourtant extrêmement riche. Donc merci Rémi d'effectuer ce travail, parce que c'est sûr que nous on peut au quotidien, on n'a personne et on n'a pas le temps de se retourner. On est tourné vers l'avenir parce que Bordeaux Métropole Énergie, donc c'est donc une SAEML, hein, une société d'économie mixte locale, à actionnariat très largement public. Donc il y a une vraie dimension service public chez nous. Et aujourd'hui, on a diversifié l'activité. On a évidemment le gaz, toujours avec Gaz de Bordeaux qui est fournisseur et Regaz qui est distributeur, donc gestionnaire du réseau de distribution, comme Enedis, pour l'ELEC. On a aussi chez BME maintenant une partie qui va s'attaquer à la rénovation énergétique du bâti sur la métropole, parce que là aussi la transition énergétique, nous on est dedans tous les jours. Et sur Bordeaux, voilà, il y a 350 000 logements, en gros, et il y en a plus de 200 000 qui ont été faits après la première RT, la première réglementation thermique, celle qui fixe le seuil de consommation des bâtiments, qui date de 1974. Donc, il y a 200 000 logements, là, qui sont hors course et qui sont ce qu'on peut appeler, dans notre jargon à nous, des passoires thermiques. Donc la transition énergétique au niveau local, elle ne se fera pas non plus sans qu'on passe par la rénovation thermique de ces bâtiments. On s'y attaque. On a une autre filiale qui s'appelle Neomix, dans laquelle là, on s'intéresse plus particulièrement aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, photovoltaïque et méthanisation de type agricole. on s'est associé à 6 agriculteurs du Médoc qui étaient persuadés aussi que la méthanisation avait du bon. On a commencé ça il y a un an et demi. L'unité de méthanisation de Saint-Laurent-du-Médoc produit du biogaz qu'on épure et qu'on odorise pour en faire du biométhane qui est injecté directement dans notre réseau puisqu'on est aussi présent dans le Médoc depuis fin août là. Donc c'est une vraie avancée pour nous parce qu'il n'y avait pas de méthaniseur directement sur la cuve. Alors il y en a un à Cestas qui fait du bio-GNV pour les véhicules. C'est une première unité, il y en aura une deuxième, une troisième, il y a beaucoup de projets. Ça fait partie de ce qui va aider à transformer l'image du gaz qui aujourd'hui est ce qu'elle est, parce que c'est un gaz fossile. Il n'y a plus de production en France, donc tout est importé. Et c'est vrai qu'à cet égard, on peut critiquer le gaz naturel, même si on en a encore besoin, et même s'il a fait la preuve depuis longtemps, il se mariait très bien aux énergies renouvelables. Donc on aura toujours besoin de gaz naturel, mais si on peut ramener de la production sur le territoire à travers la méthanisation notamment, c'est un plus, voilà. Donc on s'y attaque localement, à notre niveau, hein, mais si tout le monde fait ça dans tous les territoires, forcément, ça va donner des résultats. On est à peu près à 90 méthaniseurs en France aujourd'hui. Il y a de fortes chances que ce chiffre connaisse une augmentation exponentielle dans les années toutes proches. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on a, on a une histoire qui est très riche et aujourd'hui on va s'y intéresser. Ça nous fait une petite parenthèse dans le temps parce qu'au quotidien, les équipes chez nous, elles sont essentiellement tournées vers ce qui va se passer demain et on a une obligation de réussir la transition énergétique. La métropole de Bordeaux a pris des engagements assez ambitieux en termes de transition. Donc on est là aussi pour l'aider à réaliser ses ambitions et toutes nos énergies à nous sont concentrées sur la réussite de cette transition énergétique locale. Donc encore une fois, merci Rémi. J'espère qu'on t'a fourni tout le matériel et tout le matériel nécessaire à faire tes recherches. On a essayé en tout cas et je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci.
Merci beaucoup. Donc, une excellente promotion de l'utilité des thèses chiffres dans les entreprises et pour les partenaires. Juste une minute, j'ai oublié de remercier notre partenaire ici, incarné par Sofia Karyotov, la Fondation Bordeaux Université qui nous accompagne. C'est grâce à la Fondation que nous sommes ici, dans cette salle, dans le cadre de l'Université de Bordeaux, qui était souvent utilisée par le Forum Montesquieu. Merci beaucoup, elle était effectivement présente à l'accueil avant et après, avec des modifications dans le personnel, elle l'a beaucoup fait. L'économie de la manifestation en 5-7, je ne sais pas s'il y a 5-7, donc le déroulé, vous aurez droit à une introduction qui va certainement être originale dans la méthodologie des supports, des infographies, donc Cyril Abonnel, Rémi Lung et moi-même, une table ronde animée par Léonard Laborie, qui est rédacteur en chef de la revue d'Histoire de l'énergie et qui est un Périgourdin et qui est un ancien Bordelais qui est dans le comité d'histoire de l'énergie avec des jeunes docteurs, doctorantes, je vais employer le masculin général parce qu'on n'en sort pas, donc jeunes docteurs et doctorants ou doctorantes. Nous avons ensuite une pause déjeuner avec un buffet normalement par un traiteur expérimenté qui a été expérimenté notamment dans le domaine du tennis. Et il y a tous les inscrits, y compris les étudiants, à condition qu'ils soient disciplinés. Donc tous les inscrits peuvent participer à ce buffet qui se tient bien dans la salle en bas, là, dans la salle où vous aviez la pause café. Et nous espérons que nous aurons du café jusqu'au bout cette fois, parce que j'ai oublié de parler de la manifestation précédente, la chaire recette, qui était le second anniversaire de la chaire, au mois d'avril, qui a été une grande réussite donc institutionnelle et des parties prenantes, qui était dans un autre lieu, qui était effectivement au domaine du Haut Carré à Pessac, mais le café, il y avait une amélioration. Ensuite, nous aurons la communication centrale et historique réalisée. Non, nous avons d'abord une communication de Anne Dalmasso qui nous vient de loin, qui nous vient de Grenoble, qui va nous montrer la pertinence et des éléments donc comparés de comparaison sur la territorialisation. Puis la communication historique Alexandre Fernandez et Rémi Lonc, donc Bordeaux et sa régie, puis une table ronde de comparaison où l'on reprendra un Dalmassois Alexandre Fernandez et Rémi Lonc, lourde tâche par l'animatrice qui fait partie, qui est à la fois bordelaise, parisienne, bretonne, de toutes les... Stéphanie Le Gallic, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis longtemps. La table ronde finale qui sera le clou, animée par Cyril Abonnel, avec les différentes parties prenantes, l'arrivée de Jean-Pierre Villot, et puis des conclusions. Alors on a des conclusions au singulier pour faire plus court, parce que ce qui vaut, c'est les débats. Voilà. Il est temps de passer à notre introduction commune. Rémi Lonc, Cyril Abonnel et moi-même. La parole étant d'abord à Rémi.
Merci.
Merci, Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous l'avez compris, je suis le prolétaire qui a organisé le prolétaire de la recherche qui a organisé ce colloque, la cheville ouvrière. Et ce qu'on vous propose, bien sûr, il y a un focus particulier sur l'électricité et le gaz, hein, qui sont deux des trois piliers de notre système énergétique, le principal étant le pétrole. Et avant de nous intéresser un peu plus à ces énergies, en particulier cet après-midi, on voulait avoir un récit synthétique de l'histoire de l'énergie, notamment parce que le public aujourd'hui est assez diversifié. Et parce que dans notre société actuelle, en particulier, on l'a bien vu ce matin, s'il y a un nouveau paradigme qui s'est imposé depuis une décennie, en particulier depuis 2012, c'est celui de transition. La transition énergétique, tout le monde est pour, mais personne ne met la même chose dedans. Or, quand on parle de transition, on oublie souvent ce qu'elle désigne. Et il faut rappeler que la transition, en science, c'est le passage d'un état à l'autre, le basculement d'un système, d'une configuration dominante à une autre. Donc on parle d'approche systémique. Et c'est un concept temporel qui désigne tout le processus et non pas le processus lui-même, enfin toute la chronologie du processus, non pas le processus lui-même, qui serait plutôt la mutation. Donc, pour adopter cette approche systémique, il est nécessaire de comprendre les éléments qui composent, les éléments socio-économiques qui ont composé les différents systèmes énergétiques qui se sont succédés sur Bordeaux et plus généralement sur ce territoire qu'on a décidé d'appeler le bassin bordelais. Que je définis très rapidement, c'est la jonction de la Dordogne et de la Gironde et cette embouchure, cette ouverture. Et c'est un bassin de peuplement depuis 200 000 ans. Tout bon historien, on s'est appuyé sur nos pères et l'approche systémique de l'histoire de l'énergie, elle est quand même assez ancienne. D'abord, l'histoire des techniques avec Bertrand Gilles a commencé à développer ces concepts de système. Et ensuite, Alain Gras, dès 1997, parle de macro-système technique. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Je citerai aussi son livre de 2007 qui est très intéressant sur la civilisation thermo-industrielle. Et puis, naturellement, pour moi personnellement, ma Bible, c'est Les servitudes de la puissance de Jean-Claude Debert, Jean-Paul Deluage et Daniel Emery, deux historiens et un physicien. Édité en 1986, réédité en 2013 avec cette magnifique couverture, mais je préfère le titre original, Les servitudes de la puissance, qui évoque beaucoup de choses. Dans ce livre, les trois auteurs développent vraiment une logique de système énergétique qui s'articule entre trois piliers: l'exploitation de gisements énergétiques renouvelables ou fossiles, et c'est bien sûr la mobilisation des deuxièmes types de gisements qui va différencier des systèmes énergétiques contemporains des systèmes précédents, l'utilisation de convertisseurs pour transformer, transporter et l'énergie jusqu'à son usage final, donc c'est cette chaîne rouge au milieu, et la mise en place d'organisations sociales qui vont réguler l'accès et l'usage de ces gisements aux convertisseurs. Donc ce tableau, je reviendrai très rapidement dessus tout à l'heure. Donc dans cet ouvrage, il s'intéresse donc aux caractéristiques environnementales qui sont les plus importantes, la biosphère étant entourant la sphère sociale et la sphère économique, c'est une vision très économie de l'environnement aujourd'hui assez classique. Mais le pilier des systèmes énergétiques, pour eux, ce sont bien les convertisseurs. Ces outils biologiques ou artificiels qui transforment l'énergie brute en forme utilisable. Je rappelle rapidement deux règles de la thermodynamique. D'abord, rien ne se crée, tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc les convertisseurs ont la capacité de changer l'énergie en un autre type d'énergie, l'énergie chimique en énergie thermique, mécanique, voire même en énergie électrique. Et ensuite l'entropie, deuxième principe, toute quantité d'énergie se diminue, mais la qualité d'une énergie ne se vaut pas. Donc la force des convertisseurs biologiques, d'abord les plantes vertes puis les animaux, c'est cette capacité de valoriser mieux son énergie, au prix, bien sûr, d'une énorme dépense d'énergie. Je développerai un peu lors de ma première partie. Si vous êtes intéressé par cet ouvrage plus en détail, je ne peux que recommander l'excellente recension de Sarah Claire sur le site de la revue d'histoire de l'énergie que Léonard Laborie présentera tout à l'heure, avec cette carte heuristique qui résume très bien les six parties de l'ouvrage. Et pour la présentation qu'on va vous faire maintenant, ce sera quand même pas mal la structure avec une approche locale. Autre ouvrage très rapidement qui nous a inspiré, plus contemporain, c'est Power to the People, avec bien sûr le double sens du titre, qui s'intéresse à l'histoire de l'énergie en Europe depuis 5 siècles. Alors c'est un énorme travail statistique, bien sûr, les statistiques en histoire s'interrogent. La France ne fait pas partie des pays les plus étudiés dans ce livre. Néanmoins, les évolutions du système énergétique qui sont étudiées la concernent également. Et l'approche intéressante de cet ouvrage, c'est la réflexion en ce qu'on appelle « development block », désolé pour mon anglais, donc « bloc de développement ». C'est-à-dire, vous connaissez tous les principes de la première et deuxième révolution industrielle. On dit souvent « première révolution industrielle, machine à vapeur et charbon ». Deuxième, électricité, moteur à combustion et pétrole. Mais bien sûr, ce n'est pas un seul objet, un seul gisement qui ont révolutionné notre système énergétique. C'est tout un ensemble de micro et de macro innovations et inventions. Et donc vraiment, cette interconnexion, ce renforcement de blocs de développement et leur poids de plus en plus croissant dans les systèmes explique beaucoup les mutations et les transitions entre les différents systèmes énergétiques de notre histoire contemporaine. Pour finir, avant de passer la parole à Christophe, notre volonté aussi, même si effectivement notre mémoire dans les industries électriques et gazières est invalorisée, en France il y a quand même une certaine tradition d'un récit mythifié de l'histoire des IEG, des industries électriques et gazières. Dans cette approche de l'histoire de l'énergie, on voulait justement avoir une approche un peu plus systémique, un peu moins chronologique, un peu moins comme si c'était un récit inévitable, comprendre qu'il y a eu un moment des basculements, clairement, et puis surtout avoir une volonté de vulgarisation, mais ça que Cyril le définira un peu plus tard.
Donc, merci beaucoup, vous n'êtes pas que la cheville ouvrière, vous êtes le penseur-concepteur, j'insiste. Donc, dans la transition, c'est le cas de le dire, je voudrais revenir, notre colloque, sa spécificité, c'est de décliner à l'échelle de ce qu'on appelle le bassin bordelais, donc Bordeaux, agglomération bordelaise, port de Bordeaux, complexe industriel au portuaire, département de la Gironde, dans ses interconnexions, la problématique énergéticienne sur le temps long des énergies de Bordeaux, avec des temporalités qui s'enchaînent, qui s'accélèrent, mais avec des paradigmes différents de stabilisation ou de déstabilisation d'un système, parce qu'il n'y a jamais une stabilisation permanente d'un système. Premier point. Second point, il faudrait quand même, vis-à-vis des étudiants, apporter d'emblée une critique constructive du concept de transition énergétique qui est travaillé depuis une dizaine d'années par les historiens. Il y a dans la salle Léonard Laborie et Yves Bouvier qui ont fait un ouvrage sur le concept de transition, Charles-François Matisse avec Geneviève Massard-Guilbault sur les transitions sous le soleil, donc les transitions énergétiques, et à titre indicatif, dans le cadre de la chaire, je renvoie ici aux étudiants, YouTube est très utile, vous devez absolument pour la semaine prochaine me supporter pendant 1h15 sur YouTube, vous tapez Christophe Bounot sur YouTube, et vous voyez la transition énergétique, deux points, cet obscur objet de désir historique. Cet obscur objet de désir historique dont aura lieu un article. Donc déjà, le concept de transition énergétique est un impératif catégorique, doit être mis en perspective critique par rapport aux sciences humaines et sociales, il doit être mis en perspective critique par rapport à la périodisation, et il doit être mis en perspective critique par rapport au territoire. C'est bien un des objets de la thèse de Rémy Lung, et c'est bien un des objets de la chaire elle-même dans l'encastrement, la notion d'encastrement et le rapport ou non aux théories donc de la proximité par rapport donc à ces éléments territoriaux. Second élément, vous avez mis, voilà, c'est très bien, je le vois de loin, c'est ça, c'est le problème de le de voir et de se rappeler. Pour commenter, parce que je n'ai pas ici de retour. Donc, n'oublions pas que par rapport à la perspective donc énergéticienne de ce colloque sur le bassin de Bordeaux, on a très longuement hésité. C'est faute de mieux que l'on a choisi effectivement le bassin bordelais. Plusieurs types de définitions. C'est la zone de peuplement située autour de la jonction de la Garonne et de la Dordogne, et dans la métropole de Bordeaux, dans la ville de Bordeaux, constitue progressivement le centre économique et social depuis le début de notre ère. Et ensuite, je rappelle quand même que dans la création des départements 1790-91-92, là, le centre, la Gironde, a une seule plus grande département de France, c'est la centralité par rapport au transport, donc la création effectivement autour de Bordeaux. Donc par rapport à la problématique énergéticienne, elle est ultra valable par rapport notamment à la loi de 1906 sur la distribution donc d'électricité et d'énergie et par rapport au SDEG, le syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, donc Stéphane Houllier. Donc la Gironde, au fond, le bassin bordelais, c'est la Gironde, mais on va revenir. Dans cet encastrement, on retrouve bien entendu une dimension régionale, l'encastrement, mais c'est original par rapport à des travaux, j'insiste. On a eu peu de colloques travaillant dans une dimension interdisciplinaire et énergéticienne. Le travail, effectivement, de l'énergie à une échelle territoriale qui n'est pas uniquement micro, qui n'est pas uniquement régionale, mais la notion même de bassin. Bassin qui renvoie bassin de vie, bassin hydraulique, bassin, donc, effectivement, bassin énergétique. Donc, dernier élément, la bibliographie, au fond, d'histoire économique régionale est très largement travaillée. Donc, sur le cœur de la question, c'est bien entendu Alexandre Fernandez qui aura deux gros temps de parole, un temps de parole, puisqu'il est le spécialiste, donc, en début donc, d'après-midi, pour présenter avec Rémi Lung. Et nous avons, donc, également une tradition d'histoire économique régionale, la tradition sur la Gironde, l'histoire des Bordelais. N'oublions pas les travaux des géographes, les activités industrielles à l'agglomération bordelaise, Hubert Bonin et Pierre Delfaux. Donc un colloque que l'on a consacré au bassin de lac métamorphose d'un territoire, et bien entendu des travaux personnels sur l'électrification. La parole est à Sierra.
Alors, merci Christophe. Moi, je voudrais juste avoir deux propos, je dirais. Le premier, c'est pour compléter, je dirais, d'une certaine manière, étayer l'intérêt historique de cette investigation territoriale d'échelle de bassin, pour la mettre en dialogue et s'en souvenir cet après-midi dans notre table ronde sur Bordeaux Métropole, territoire et énergie à l'horizon 2050, affiché comme ambition par la métropole elle-même et qui a donné à la fois un cadre programmatique et un plan d'action. Il y a un des enjeux, c'est l'enjeu de solidarité énergétique territoriale pour pouvoir atteindre le volume de production d'énergie renouvelable qui permette de faire sens par rapport à la définition d'un territoire énergie positive, qui est un territoire qui produit en énergie renouvelable plus qu'il ne consomme. Donc on y reviendra cet après-midi avec quelques chiffres, entre la situation 2017, puisque c'est à ce moment-là que les choses ont été ancrées politiquement par la métropole, et les chiffres et l'ambition, la vision à l'horizon 2050. Mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir ça en tête, non seulement sur l'épaisseur historique qu'on va voir dans les minutes qui viennent avec les différents tableaux correspondant à différentes périodes historiques, et en même temps se projeter, puisque c'est un des intérêts de ce genre d'exercice, d'enrichir la vision et le dialogue prospectif avec les éléments historiques. Donc pourquoi 9 tableaux ? Parce que ça correspond à des découpages, on va dire, historiques qui font sens. On va y revenir. Et l'idée, c'est de faire appel à des spécialistes des différentes périodes, mais aussi à d'autres regards, puisque l'interdisciplinarité est une des dimensions importantes de la chaire, notamment pour identifier les bons convertisseurs symboliques des différentes périodes. Vous verrez que c'est un travail en train de se faire, pour le dire en français. Et donc, voilà, on va rentrer dans le détail maintenant avec Rémi.
pas aussi grand que Thierry. Alors, effectivement, donc, l'objectif de cette communication, c'est pas de vous présenter 200 000 ans d'histoire de l'énergie en une heure. Je pense que ce serait difficile. Notre ambition, c'est de faire un travail collectif pour produire un ouvrage ou un support numérique qui permettra de partir depuis un objet concret du système énergétique, par exemple un moulin, je sais pas, le siège de la régie, la centrale nucléaire du Blayais, pour expliquer en détail la composition du système énergétique bordelais qui, bien sûr, ne se limite pas aux frontières de ce bassin. Il est de plus en plus interconnecté au fil de l'histoire avec l'environnement, enfin, les autres territoires. J'ai la lourde tâche aussi de revenir un peu sur les notions de système énergétique et tous les éléments qu'il compose, puisque ensuite, je devrais, en moins d'un quart d'heure, vous raconter environ 200 000 ans d'histoire de l'énergie, puisqu'en bon historien contemporain, nous avons fait un découpage équilibré, hein, 4 tableaux avant l'époque contemporaine et 5 après, naturellement. Mais ça illustre bien l'accélération du changement de nos systèmes énergétiques, de la mobilisation des ressources et des gisements, parce que bien sûr, on consomme beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 200 ans, et puis cette complexification croissante. Pour revenir sur la question d'énergie, n'oublions pas que c'est un concept qui est apparu au XVIIIe siècle. C'est une notion de physique qui, au début, désigne d'abord le travail mécanique, ensuite est élargie aux questions thermiques avec la chaleur. Et puis, toujours, l'énergie a été évaluée selon un étalon, d'abord la calorie, puis la joule, aujourd'hui la tonne équivalent pétrole, ce qui montre bien le poids du pétrole dans notre système. Et les différents convertisseurs que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, qu'ils soient biologiques ou artificiels, ces convertisseurs transforment donc l'énergie avec un rendement toujours inférieur à 1. On perd toujours de l'énergie dans le changement. Mais comme je le disais tout à l'heure, en améliorant la qualité de cette énergie. Chaque convertisseur, par exemple biologique, a un excédent qu'on peut quantifier. Une plante verte peut dégager un surplus de 2% de l'énergie solaire qu'elle capte, puisque c'est quand même l'origine de toute la vie sur Terre, c'est le soleil, hein. Et ce surplus ensuite peut être capté par d'autres êtres vivants, les animaux, qui vont digérer, incapables de capter la lumière du soleil, qui vont les digérer et avoir un rendement énergétique plus intéressant. Le meilleur exemple, c'est le cheval, qui est dans nos systèmes énergétiques souvent un pilier, mais en réalité le cheval est deux fois moins efficace qu'un être humain. L'être humain, c'est environ 20% de l'énergie mécanique, enfin 20% de l'énergie mécanique qu'il utilise peut être consacrée à autre chose que sa survie. Et ce temps-là va avoir une importance primordiale, je reviendrai dessus, sur le processus d'humanisation des hominidés. Résultat, c'est pas étonnant si les systèmes esclavagistes ont été si nombreux. C'est parce que rationnellement, d'un point de vue énergétique, ils sont plus efficaces que la mobilisation d'animaux. Ce qui n'est pas du tout une excuse, n'est pas une justification du système, hein, je le précise. Voilà. Donc, sur ce système énergétique, je reviendrai très rapidement. Les gisements, ce sera par exemple le charbon, l'uranium. La filière, ça va être l'électricité, les industries pétrolières, les industries gazières, les convertisseurs. Vous allez en voir plusieurs exemples. Et puis les usages, puisque notre volonté aussi, c'est quand même de déboucher sur quel usage faisons-nous de cette électricité. On a fait 5 catégories que vous pouvez retrouver sur la droite de cette infographie qui va être le modèle que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc à gauche, les gisements, ensuite les filières énergétiques mobilisées, au milieu, une représentation du rapport de force entre ces différentes filières énergétiques. On n'est pas sur des statistiques parfaites, hein. Et puis un compteur pour permettre de voir le volume d'énergie mobilisé entre les différents tableaux. Et sur la droite, donc, ces convertisseurs avec 5 catégories, ceux utilisés pour exploiter les ressources, ceux utilisés pour transformer les ressources, ceux pour transporter, ceux pour éclairer, et enfin, ce que j'appelle tout le reste, mais sinon principalement le confort et la communication, qui sont quand même des aspects assez importants dans l'évolution de nos sociétés humaines. Donc là, vous avez devant vous le premier système énergétique, celui qui se met en place pendant toute la préhistoire jusqu'au néolithique, dont la principale source d'énergie et l'unique source d'énergie mécanique, c'est la force musculaire humaine. Jusqu'à la révolution industrielle et l'invention de la machine à vapeur, ce sera toujours la principale source d'énergie mécanique de nos sociétés. On voit également que cette force musculaire, donc ce que j'ai appelé la main d'œuvre, a besoin d'une filière alimentaire qui lui permet de récupérer son énergie chimique. Donc cette filière alimentaire, elle, durant la préhistoire, elle se structure avec la chasse, la cueillette et les premiers élevages, les premières domestications d'animaux. Mais la vraie révolution, enfin la vraie originalité de l'espèce humaine, c'est de créer des outils exosomatiques, donc des outils extérieurs à ses organes, de façon beaucoup plus importante, et grâce à ces outils, de délibérer encore plus de temps qui lui permet non seulement de passer du temps à concevoir et à fabriquer ces outils, mais aussi à penser à autre chose. Et il ne faut pas oublier que finalement, la maîtrise de notre énergie, c'est aussi du temps libre qui a permis, comme je disais, aux grands singes, finalement, de commencer à se poser des questions sur autre chose que où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir et compagnie. Donc c'est très lié à notre processus d'humanisation. Autre source qui est immobilisée, donc c'est assez connu, hein, la maîtrise du feu, donc les biocombustibles, deuxième gisement. Celui-ci va commencer à avoir avec les biocombustibles et la filière alimentaire, l'humanité va commencer à avoir un contrôle plus important de son espace. Mais il y a quand même des problèmes, c'est que quand on fait de la chasse et de la cueillette, on est limité en termes de population. On ne peut pas être plus d'une vingtaine, trentaine sur, 10 km, sur une centaine de kilomètres carrés, par exemple, au néolithique. Donc il va falloir du temps avant que la croissance démographique et le temps libre généré puisse permettre justement une appropriation croissante de l'espace. Et là, je prends le temps de développer un élément qui n'apparaîtra pas dans cette présentation, sauf en conclusion, mais je ne spoil pas trop. C'est le tableau qu'on veut mettre en complément de cette infographie dans l'ouvrage qu'on veut réaliser. Donc ce tableau va représenter le bassin bordelais. Vous remarquerez qu'effectivement, c'est les frontières de la Gironde, mais la Gironde, c'est une création très récente. Et il y aura un zoom sur Bordeaux, puisque quand même depuis 2000 ans, c'est le centre de ce territoire. Cartographie aujourd'hui, si on voulait regarder les unités de paysage, quel est l'impact, comment ce territoire a été transformé par l'homme, je vous invite à regarder l'atlas des paysages de la Gironde qui définit plusieurs unités paysagères, donc notamment celles qui sont autour du fleuve, aussi vous voyez la grande forêt des Landes, la côte qui a été aménagée, les zones viticoles du Libournais et de l'Entre-deux-Mers, et puis les forêts au nord du département. Il faut imaginer que quand les premiers hommes arrivent, il y a environ 200 000 ans, tout ce qui est à l'ouest de la Garonne, ce sont des zones marécageuses qui ne sont quasiment pas habitées. Les premiers bassins de pomplement sont essentiellement sur la Dordogne. Et ça va être uniquement à partir de la proto-histoire, de l'âge des métaux et puis jusqu'à l'Antiquité, que les habitants de ce territoire vont commencer à transformer activement ce paysage. Pour une raison d'abord pratique, c'est qu'ils exploitent, ils ont besoin de plus en plus de bois, et puis ils commencent l'élevage et la culture. Donc c'est la maîtrise croissante de cette filière alimentaire qui va permettre de décrocher de plus en plus de calories, donc augmenter la population, le temps disponible. Une filière qui se fait également par la mobilisation croissante de l'eau, de l'irrigation. Le convertisseur humain reste la première source d'énergie de ce système. Il est particulièrement mobilisé avec les premiers systèmes d'esclavage. Néanmoins, il y a aussi, grâce à la filière de l'élevage, la mobilisation de nouveaux convertisseurs mécaniques, qui sont les animaux. Cette évolution technologique va s'accroître avec les âges des métaux. Donc d'abord les âges du bronze, depuis environ moins 4000 avant Jésus-Christ, jusqu'à moins 1500, puis l'âge du fer à partir de moins 1000. Et enfin, l'Antiquité moyenne et tardive, avec la colonisation romaine. C'est pendant toute cette période-là, va y avoir un accroissement également des convertisseurs mécaniques, c'est-à-dire qu'on va inventer la roue, qui va quand même changer pas mal de choses, notamment pour le transport, mais aussi pour pouvoir déplacer cette énergie mécanique. Donc, l'Empire romain, il y a une diffusion des moulins à eau, beaucoup plus précoce que ce qu'on pensait il y a encore quelques années, et l'utilisation de ces moulins pour fournir une nouvelle source d'énergie mécanique, essentiellement pour moudre du grain. Mais surtout, ce qui se passe pendant la proto-histoire et l'Antiquité, c'est la nouvelle forme d'organisation sociale qui arrive à émerger grâce à cette interconnexion qui est créé par le déplacement facilité, qui fait des routes, des réseaux de commerce et d'échanges, et puis par cette énergie très disponible. Donc de nouvelles formes très fortes d'organisation se mettent en place, notamment dans l'Europe continentale et sur le bassin méditerranéen, qui aboutissent à, par exemple à tous les régimes gaulois, enfin toutes les sociétés gauloises et celtiques, à la société romaine. Et ces nouvelles formes d'organisation vont aussi s'accompagner de centralisation, de points de centralisation où généralement l'autorité est placée. Et donc l'un d'entre eux, notamment ici, ce sera Burdigala, l'ancêtre de Bordeaux, qui est dans la basse antiquité, enfin dans l'antiquité tardive, l'un des centres de l'Empire romain, qui érige quasiment deux tiers de la Gaule, de l'ancienne Gaule. Moyen-Âge et Antiquité. Alors, comme ce sont des working crusades, vous remarquerez que les convertisseurs, je n'ai pas eu le temps de les détailler, vous inquiétez pas, dans les tableaux suivants, ça se développera. Pendant le Moyen-Âge, on a d'abord un accroissement de la maîtrise agricole, excusez-moi, qui permet notamment, alors d'abord, une libéralisation progressive du statut des travailleurs humains. On passe du servage progressivement à des paysans un peu plus libres. Ça va quand même changer, notamment ça va permettre une mobilité des paysans qui sera des habitants, qui va être notamment indispensable face à la croissance économique provoquée par les innovations agricoles qui sont mobilisées, notamment dans la culture. Les moulins à eau vont se diffuser, mais là où c'est intéressant, c'est notamment dans le rôle du contrôle social dans les systèmes énergétiques, c'est que à l'époque féodale, les moulins à eau sont l'objet d'un monopole de la part des seigneurs qui prennent une taxe sur le grain qui est moulu, dans leur moulin. Résultat, pour éviter de se faire trop taxer, les paysans vont développer d'autres types de moulins, les moulins à vent, le vent n'étant pas une énergie taxée par l'État. Donc on voit bien que l'accès aux gisements et aux filières énergétiques est un vrai enjeu de pouvoir. On peut aussi lire l'histoire politique et sociale de nos sociétés à travers cet enjeu-là. Vous remarquerez que les filières commencent à être plus nombreuses. Ce système-là aurait pu vraiment accroître rapidement, notamment grâce aux croissances démographiques que connaissent le territoire pendant le 11e, 12e et 13e siècle, avec notamment une urbanisation qui se croît, une proto-industrie qui apparaît le long des fleuves et des forêts. Mais naturellement, il y a eu le contre-coup. Naturellement, non. Mais si vous avez un peu de souvenirs de cours d'histoire, vous vous rappellerez qu'au XIVe siècle, il y a eu la guerre de 100 ans, la peste noire. Donc quand il y a un tiers de la population qui disparaît pendant un siècle, ça, c'est un peu plus difficile pour accroître les énergies mobilisées. On arrive sur le dernier tableau pour ma partie, qui est un peu plus développé et que je vais essayer de faire court, même si je suis dans les temps. Celui de l'époque moderne, donc du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle. Et là, ce qui est intéressant à Bordeaux, c'est pas uniquement de se concentrer encore sur l'optimisation de la filière agricole qui profite de l'arrivée du maïs. Le maïs importé d'Amérique permet de développer un complément maïs-blé et on a plus de fourrage à donner aux animaux. Donc on peut avoir beaucoup plus de chevaux, de vaches, de bœufs, qui vont être utilisés pour la traction animale. Il y a aussi, bien sûr, l'optimisation des convertisseurs traditionnels, en particulier les moulins et les engrenages. Il y a la proto-industrie qui se développe avec les mines et les sidérurgies. Et cette proto-industrie mobilise énormément d'énergie thermique, donc exploite beaucoup les forêts. Il faut imaginer qu'une sidérurgie, à l'époque, pouvait consommer, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est 10 hectares par an. Enfin, en clair, au bout d'une décennie, il n'y avait plus de bois à proximité. Et à l'époque, il était un peu difficile de le transporter sur de longues distances. Mais en plus, l'énergie mécanique nécessaire souvent est utilisée et alimentée par l'énergie hydraulique. Donc il faut être à proximité des fleuves. Le principal changement que je voudrais souligner, c'est surtout un convertisseur et toutes les conséquences qu'il y a derrière, c'est le navire à voile. Bordeaux, au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est la porte des Antilles. C'est le lieu qui symbolise le mieux l'interconnexion entre l'Ouest, qui a tellement mobilisé ses ressources économiques, ses ressources naturelles, pardon, qu'elle arrive à un point de tension, et le continent américain, qui est mobilisé pour fournir une nouvelle manne d'énergie. Et à Bordeaux, qui est l'entrepôt européen, un entrepôt international qui accueille des milliers de négociants, qu'on voit vraiment la force de cette interconnexion qui commence à devenir planétaire. En plus, le navire à voile, c'est un bon symbole de l'efficacité énergétique qui est déjà souligné par Smith il y a plus de 200 ans. Il faisait la comparaison pour le système anglais. Il disait qu'un navire à voile, c'était l'équivalent, si on reprend ses calculs parce qu'il fait une faute, c'est 300 chariots et 1200 chevaux pour déplacer la même quantité d'énergie dans un temps donné aussi court entre le nord de l'Angleterre et le sud. Donc, cette convertisseur va permettre la diminution du prix du transport et l'interconnexion accrue entre ces territoires. Et Bordeaux symbolise bien ce projet politique colonial qui remobilise à nouveau le système esclavagiste, cette fois-ci en l'exportant en quelque sorte en dehors de son propre territoire. Et aussi l'importance croissante d'une classe sociale, la bourgeoisie, puisque le navire à voile, à l'époque, faire une expédition, qu'elle soit triangulaire ou simplement un aller-retour entre Saint-Domingue, la Martinique et Bordeaux, c'est le plus gros investissement qu'on fait. Ça nécessite énormément de capitaux, c'est quelque chose de très technique, il faut des ouvriers, oui, des travailleurs très qualifiés, et résultat, ça nécessite la combinaison de plusieurs acteurs, et à Bordeaux, on voit l'internationalisation du commerce, pardon. La majorité des expéditions étaient financées par des Britanniques. Je ne suis pas revenu sur la présence anglaise au Moyen-Âge à Bordeaux. Et pour finir, j'ai un peu dépassé messieurs les temps. Je termine sur ce tableau de Joseph Fernet qui représente le port de Bordeaux en 1758, vu à peu près depuis le pont de Pierre. Si on zoome un peu, on peut voir toute la richesse des convertisseurs énergétiques qui sont mobilisés à l'époque. Le navire qui occupe la principale place. On voit quelqu'un qui s'échine au milieu à essayer de tirer ses bœufs. On voit des calèches, on voit des carrosses, on voit énormément de personnes à pied. On voit les barques qui permettent de remonter le long de la Garonne. On voit la fumée qui montre l'accroissement du confort. Donc, pour terminer, ce système énergétique arrive à une mobilisation massive de la rente renouvelable. On ne peut pas faire plus. Qu'est-ce qui va permettre de débloquer le système ? Ça va être la mobilisation d'un gisement supplémentaire, le charbon, qui est déjà présent à Bordeaux puisque l'Angleterre le mobilise beaucoup plus tôt et que pour les distilleries ou les verreries bordelaises, c'est une source d'énergie calorique beaucoup moins chère que le bois. Et surtout la machine à vapeur. Donc je cède la parole à Christophe sur ce tableau qui nous montre un joli transatlantique dans la Garonne. Voilà.
Merci beaucoup Rémi, et c'est une performance plusieurs milliers d'années, et on voit d'ailleurs le lien entre les infographies, les systèmes, la cartographie et la complexité des systèmes, la question capitalistique devenant décisive. Nous passons à l'infographie 5, c'est dans l'autre sens, donc de la première révolution industrielle, la grande révolution industrielle, en insistant sur le fait que Bordeaux est à la fois très mal placé et bien placé dans le cadre de la division internationale du commerce et du travail. L'élément marqueur, c'est bien entendu la machine à vapeur, c'est bien entendu le charbon, c'est dans le domaine. Donc c'est le choix du feu, c'est l'énergie fossile, la révolution fossiles. Je tiens donc le temps de parole. Bordeaux étant très mal placé dans les approvisionnements, même si Bordeaux en 1914 est le premier port charbonnier, justement, donc d'entrée par rapport à l'échelle française, on retrouve quand même, donc déjà, contrairement à ce que l'on a pu voir, on a un travail de Serge Benoît qui va être publié, les énergies renouvelables, les moulins à eau, les énergies renouvelables se maintiennent jusqu'à la fin du 19e siècle, donc hein, quand même une résistance. On a effectivement aussi, donc, dans le domaine donc, des incinérateurs, l'électricité qui fait à peine son apparition. Donc ici, on se situe dans les années 1880, avant donc le slide suivant. Ce qui est très intéressant, ce sont donc dans la colonne de droite donc les cinq catégories. Les cinq catégories, la machine à vapeur, le domaine du haut fourneau, on est à la limite, et ça vient montrer dans le patrimoine industriel de la Gironde, L'éclairage public, c'est la thèse de Rémy, avant donc la thèse de, au fond, d'Alexandre Fernandez, où il a trouvé des éléments très intéressants sur les années 1830 et 1840, donc à Bordeaux. Et bien entendu, on va y revenir, l'investissement le plus capitalistique qui transforme énergétiquement l'ensemble donc, du département et du bassin, c'est la folie du chemin de fer. Stendhal, 1838, on va donc trouver progressivement Bordeaux. Bordeaux qui est un complexe industrialo-portuaire et un nœud ferroviaire. Et donc toutes les activités primaires et les activités finales, donc Cyril reviendra sur la conception énergie primaire, énergie finale, usage dans les calculs et dans les différences qui peuvent être réalisées, on retrouve ici cette dimension. Donc on a au fond les quatre facteurs majeurs, machine à vapeur, au fourneau, éclairage public, train. On a du mal à distinguer dans le confort et dans les usages. Donc le télégraphe depuis les années 1840, on retrouve effectivement la poste, bien entendu, pour faire plaisir à Léonard Labourse. Donc je continue. Le système de la seconde révolution industrielle, une seconde industrialisation, en soulignant pour les étudiants que Jérémy Rifkin ne sait pas compter, puisque nous serions aujourd'hui dans la quatrième révolution industrielle et non pas dans la troisième. Mais ça, c'est peanuts, bien entendu. Donc nous sommes ici sur la révolution majeure, d'abord, de l'énergie électrique comme forme, comme généralisation. C'est le début de la généralisation comme forme polymorphe d'énergie électrique. C'est ce que montre bien Alexandre Fernandez, déjà dans sa thèse, par les approvisionnements, même si nous avons ici un combat, une coexistence durant plusieurs décennies entre électricité et gaz et forme gazière. La grande transformation progressive, c'est le tout début donc du pétrole, mais le charbon qui effectivement se maintient considérablement. Donc on a une énergie mixte, Bordeaux, l'énergie hydroélectrique qui vient de la Dordogne, de Tulières, de Mosa, que l'on a donc visité. Donc le Bordeaux port charbonnier, ce sont des éléments dont le système se complexifie considérablement. En revanche, c'est l'époque où l'énergie, les énergies renouvelables, c'est la grande montée de l'énergie hydraulique. N'oublions pas qu'en France, dans les années 30, mais peu en Gironde, sauf grâce à l'interconnexion, on va y revenir avec les Pyrénées, le Massif central et la Dordogne, la France est le pays de l'interconnexion et de l'hydraulique par excellence, puisque dans l'énergie électrique, en source primaire, 50% à peu près venait de l'énergie hydraulique. Donc les convertisseurs qui vont au fourneau, mettez donc la lampe à incandescence, bien entendu, les différentes formes de mobilité, le train et bien entendu téléphone, radio, je n'insiste pas. En revanche, la question spatiale. Bordeaux est avant tout la métropolisation. Donc le poids, la macrocéphalie de Bordeaux à l'intérieur de la Gironde, qui s'affirme dans les consommations, qui crée une agglomération, qui se transforme en métropole, qui combine les mobilités, donc les formes primaires et finales, énergéticiennes, de production, de transformation, d'utilisation, tout ça quand même est quand même lié à la vocation ferroviaire. Le complexe ferroviaire bordelais au début des années 30, avec pas moins au minimum 7 gares différentes, je ne détaille pas. Et puis, tous les étudiants doivent aller se recueillir. Elle est protégée, il y a une espèce de plastique. Le hall départ de la gare Saint-Jean, c'est obligatoire, on pouvait commenter ça pendant 5 heures, c'est le réseau de la compagnie des chemins de fer du Midi qui montre bien l'insertion Bordeaux, Gironde, Atlantique, Sud-Ouest, et qui surtout, quand on voit la légende, je rappelle que pour les historiens qui sont de très mauvais géographes, mais ils savent faire les légendes, le plus important c'est la légende, que voit-on? Ligne de la compagnie du Midi, ligne de transport d'énergie, ligne d'autres réseaux, itinéraire d'autocar. On a toutes les formes de mobilité et de consommation. Et on voit bien qu'avec le chemin de fer, comme disait mon maître, il faut absolument citer mon maître François Caron, dans l'histoire des techniques de l'innovation et de l'énergie, les deux révolutions industrielles du XXe siècle, l'électricité est la fille du chemin de fer. Et on a bien une trilogie pour l'énergie et pour la consommation. Chemin de fer, électricité et tourisme. N'oublions pas aujourd'hui les enjeux de la consommation touristique. Et Rémy a réussi à mettre face à face donc une carte tirée effectivement de ma thèse et une carte qui insère Bordeaux dans la problématique de l'hydroélectricité, des réseaux, de la capillarité, réseau de distribution, réseau de transport, réseau d'interconnexion, forme polymorphe, on voit bien, donc Pessac, le célèbre poste donc, de Pessac, Dax, le Hameçon, donc les usines hydroélectriques qui sont visitées par les Américains, et puis l'interconnexion, l'infrastructure énergétique du Pays au Midi en 1936, où on voit bien les échelles, on pourrait voir les différentes échelles. Pour rassurer Rémi, je suis dans le dernier slide. Je suis dans le dernier slide, et le slide qui nous amène dans le second mouvement de la seconde révolution industrielle, avant la genèse de la troisième révolution industrielle des années 70 et des années 80, parce que j'insiste, la question de la décroissance de la transition énergétique, ce serait, est-ce qu'elle est verrouillée, une quatrième ou non révolution donc industrielle. Donc, de la Seconde Guerre mondiale à la veille, à la fois des chocs pétroliers, à la veille du plan électronucléaire, je rappelle que la décision du plan électronucléaire, on l'a vu dans une session qui s'est déroulée à Paris la semaine dernière, la décision a été prise avant le choc pétrolier. Ça a été donc fait effectivement donc ici accéléré. Donc les éléments décisifs, c'est la disparition des énergies renouvelables pratiquement dans cette époque, sauf l'énergie hydroélectrique qui se développe, l'électricité qui le forme majeur, et effectivement le rôle, surtout pour la région dans cette période, le rôle du mirage et miracle des trajectoires des hydrocarbures, le micro-événement de Parentis dans les Landes, pas loin, pour le pétrole directement, et le macro-événement, on a consacré en 2014 avec le Conseil régional dans le patrimoine industriel, Alain Beltran était venu, donc la trajectoire donc, du gaz de Lac, la question a été décisive, avec le rôle de Chaban-Delmas aussi, sur les négociations tarifaires. Est-ce qu'il devait y avoir un traitement privilégié dans le cadre de l'Aquitaine et de la Gironde du gaz naturel? Donc on retrouve le mirage et le miracle, on parlait de Texas, donc à la française. Donc la question, c'est l'époque où les raffineries de pétrole atteignent effectivement leur apogée, où le complexe, le port autonome aurait tendance enfin peut-être à se développer, un avant-port commence à se développer en même temps. Donc on a un glissement vers l'eau, mais très limité quand on voit les comparaisons par rapport à Nantes, par rapport même à Marseille, par rapport à d'autres exemples. On a en tout cas une montée des énergies fossiles, sans oublier la part de l'électricité. Et je termine. Donc les lieux d'alimentation, mais je ne suis pas spécialiste. Les déchets, n'oublions pas le rôle des déchets. Nous avons donc le rôle, donc le moteur, le tube cathodique, la voiture. Alors un élément dans la mobilité qui est tout à fait décisif, c'est dans les années 50 que pour Bordeaux, le tramway étant considéré comme obsolète et remplacé effectivement par l'autobus. L'histoire du tramway à Bordeaux est tout à fait passionnante. Elle est emblématique avec ses quatre âges, ses quatre, sept marques pour les usages électroménagers. Donc voilà les Chaudières, le rôle de Lac Bassin à Coudin, donc les Pyrénées, la Dordogne. Voilà ce que je vous ai souligné. Donc la parole est maintenant...
Oui, à Cyril. Vous voulez juste compléter, au milieu vous voyez le compteur, et on n'a pas beaucoup insisté dessus, mais là vous pouvez remarquer qu'en une trentaine d'années, l'énergie consommée sur le territoire double en une trentaine d'années. Donc non seulement le pétrole devient le nouveau pilier, mais en plus, ce n'est pas parce que le charbon s'effondre, parce que le charbon diminue, mais la consommation du pétrole explose.
Merci. N'exploite pas suffisamment cette infographie, une richesse, on peut y rester, on peut la commenter en 5 minutes comme on l'a commenté pendant 18 jours, en montrant maintenant ces groupes.
Comme c'est un travail en cours, on sera évidemment heureux d'avoir vos suggestions, commentaires, attentes, puisque c'est un peu comme le tableau de Mendeleïev, notamment pour les convertisseurs, on est convaincu que... Il y a des choses oubliées à ce stade et qui, par contre, méritent de figurer. Donc, pour poursuivre, donc il reste deux graphes comme ça et puis la proposition d'illustration sous forme de tableau spatialisé. Donc là, évidemment, après le choix du feu, il y a le choix de l'atome. Comme le disait Christophe à l'instant, c'est la décision avant choc pétrolier, mais évidemment confortée d'un point de vue souveraineté énergétique par les chocs pétroliers. La place du nucléaire, ce qu'on peut aussi noter, c'est c'est quand même la géothermie et les débuts un peu, le redémarrage, on va dire, du photovoltaïque avec les progrès technologiques. Ce qui semble intéressant à souligner aussi, c'est le côté, enfin, du côté des convertisseurs et des usages. Le porte-conteneur, donc c'est la suite un peu logique à l'échelle mondialisation, on va dire, des transports internationaux. Le plastique, c'est un peu son âge d'or. On voit aujourd'hui ce que ça donne et les conséquences et l'importance de prendre ce sujet en compte. Les progrès technologiques aussi avec le laser. Et il semble intéressant de souligner en bas à gauche, donc la partie confort, à la fois l'enjeu du chauffage et du chauffe-eau, parce qu'évidemment le développement du nucléaire, il fallait bien consommer cette énergie. Et donc ça paraissait à la fois plus facile techniquement et plus cohérent donc de développer le confort, notamment donc quand il fait froid, avec du chauffage électrique. Malgré, après les campagnes avec le choc pétrolier sur l'économie d'énergie, enfin, là, il y a des choses très intéressantes qui ont déjà été écrites par plusieurs historiens dans cette salle. Et puis les débuts de l'informatique, la télématique, l'ordinateur, puisque c'était finalement, on est, enfin, 1990, voilà, c'est le passage d'ARPANET militaire à l'Internet civil et le début du web dans cette décennie-là. Et donc, pour ne pas aller trop lentement dans cette phase d'accélération à tout point de vue, on voit que d'un point de vue des structures des filières, je dirais que le paysage ne change pas tant que ça pour l'instant, si ce n'est que les éoliennes montent en puissance, puisqu'il y a une forme de maturité technologique qui arrive non seulement sur Terre, mais aussi en mer. On a un spécialiste dans la salle, Sylvain Roche, Sur l'histoire des énergies marines ou en environnement maritime, tout à fait intéressant. J'ai moi-même contribué avant d'arriver à Bordeaux, à ma modeste mesure, au centre de recherche d'EDF. Ce que je souhaiterais souligner, peut-être là encore, c'est côté usage et convertisseur. Donc on continue globalement à consommer plus, malgré les injonctions et les politiques publiques qui incitent à une responsabilisation individuelle, ce qui est à la fois intéressant et questionnable, puisqu'il y a des enjeux fortement collectif. Donc on peut noter pour cette phase du début du 21e l'aspect robotisation qui va aussi avec la dédigitalisation un peu de toutes les activités. Je pourrais prendre l'exemple des machines à traire dans le monde agricole. Il y a aujourd'hui beaucoup de digitalisation, d'utilisation de drones, de pilotage satellite qui peut avoir des bons côtés, hein, notamment pour limiter les intrants chimiques pour l'agriculture traditionnelle. Ou la surveillance au plus juste, on l'expérimente aussi au sein d'Enedis, puisqu'on a maintenant plusieurs dizaines de télépilotes depuis 3 ans qui nous permettent de mieux maintenir les réseaux aériens et de faire ça en bonne intelligence avec, on va dire, des start-up, puisque c'est le terme maintenant consacré, donc des jeunes entrepreneurs ou des personnes tout à fait expérimentées mais qui créent des jeunes entreprises pour... on va dire exploiter mieux les innovations technologiques. Donc on gagne plus de temps au service des clients, on crée de l'activité et de l'emploi local. Je pense aux drones notamment, puisque la région Nouvelle-Aquitaine est la seule à être dotée d'un cluster qui s'appelait Aetos, qui va peut-être changer de nom puisqu'il va s'intégrer dans le pôle de compétitivité Aerospace Valley. Et ce qui me semble intéressant aussi, c'est de noter et de pointer l'évolution numérique avec les ordinateurs, les smartphones, les serveurs. Et là-dessus, on aura la chance d'avoir cet après-midi Nicolas Rayard, le chef de projet Réseau électrique 2050, puisqu'on discutera prospective à la dernière table ronde. Donc il travaille au sein du think tank le Shift Project, présidé par Jean-Marc Jancovici. Et ils ont sorti un rapport tout à fait intéressant cet été sur l'impact de la vidéo. L'impact énergétique de la vidéo, qui utilise en fait 80% des réseaux de télécommunications dans le monde. Et quand on pense au rêve, à l'utopie numérique qu'a évoqué notamment Bruno Patino là, dans un livre qui vient de sortir, La civilisation du poisson rouge, un essai sur le marché de l'économie de l'attention, enfin le marché de l'attention et l'économie de l'attention. Dans l'utopie, puisqu'on va en parler aussi cet après-midi, les utopies nécessaires telles que identifiées par François Caron en 1987, l'utopie numérique, c'était de se dire on va pouvoir connecter les cerveaux, comme l'avait déjà anticipé Teilhard de Chardin, Sauf que la connexion des cerveaux à travers le web et Internet, elle a un impact tout à fait physique et matériel à travers les réseaux énergétiques notamment. Donc cet impact, on va dire, du numérique, à la fois dans sa digitalisation et dans son poids de consommation énergétique et de mobilisation des ressources aussi, terres rares et autres matières, c'est évidemment quelque chose qui est fondamental à prendre en compte, non seulement pour la prise de conscience, si je fais caricatural, sur cette période 2000-2020, mais surtout, évidemment, pour la projection, il faudrait presque un dixième tableau, 2020-2050. On va y réfléchir suite à ce colloque. La dernière image, donc, c'est la tentative de spatialisation, de représentation donc de toutes ces dimensions. Vous retrouvez, évidemment, ou pas évidemment, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers de la géographie bordelaise, évidemment la prégnance des infrastructures de mobilité, le train, la route, l'autoroute, les systèmes de production, donc depuis le barrage de Tuilières sur la Dordogne jusque au solaire au sol, donc au niveau de Sestas, un vrai sujet aussi de... Comment ?
Le plus grand d'Europe.
Voilà, un vrai sujet aussi par rapport à la déprise agricole, hein, sur les choix à faire au niveau société et emprise territoriale. Il y a évidemment, c'est une évidence en Charente, l'éolien, mais il n'y a pas d'éolien en Gironde. Il y a la prégnance aussi, donc on ne l'a pas représenté encore, mais de la méthanisation, ou encore des réseaux de chaleur, voire des hydroliennes, hein, puisqu'il y a une ferme prototype au cœur de Bordeaux, au pied du pont Pierre. Ce qui est intéressant aussi à souligner, en termes de nouveaux usages, c'est le déploiement, enfin, le développement en fait, d'un tourisme fluvial ou estuarien, avec les recharges électriques des bateaux à quai. C'est en train de se faire, donc c'est la Bordeaux Métropole est très, très dynamique sur ce sujet, et c'est intéressant de voir, donc on l'évoquait avec la mondialisation, les porte-conteneurs. L'électrification des usages du transport maritime est un énorme sujet aussi, vu les quantités en fait de pétrole et d'énergie fossile mobilisées dans ces transports internationaux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le couplage en fait entre l'arrivée des grands bateaux qui s'arrêtent donc au cœur de Bordeaux et ensuite le relais qui est pris par le tourisme fluvial le long des cours d'eau. Et donc, j'évoquais le solaire au sol, c'est important aussi, on a essayé de le représenter là, les toitures solaires dans Bordeaux. Donc ça, c'est aussi une tendance forte qui est très largement aussi liée à l'évolution de la réglementation. La chaire I7 est partenaire du projet pionnier de Gironde Habitat sur les souffleurs, tout près de la gare, donc opération pionnière d'autoconsommation collective, permise par à la fois l'évolution des technologies avec donc le déploiement des panneaux, l'installation des compteurs communicants, mais aussi, et ça c'est un vrai enjeu qu'on accompagne en tant que chaire avec des disciplines en sciences humaines et sociales, c'est évidemment l'enjeu d'organisation. Parce que la technique c'est une chose, elle est disponible. Réussir à s'organiser entre un bailleur social, des résidents, c'est des choses qu'on étudie. On a Jean-Baptiste Gouas qui est non seulement chargé de projet, troisième génération, mais aussi évidemment chercheur au sein de la chaire sur ces questions d'autoconsommation collective en lien avec Gironde Habitat et ses résidents. Et à ce titre-là, il représente aussi la chaire dans les travaux nationaux du groupe de travail autoconsommation du labo de l'économie sociale et solidaire. Patrick Bem qui évoquait en introduction... Christophe, qui est un des fondateurs d'Enercop et aujourd'hui en charge de ce sujet, après avoir travaillé sur la sobriété énergétique pour le labo de l'ESS, donc des sujets tout à fait intéressants. Voilà pour donc cette tentative de représentation qui va être vraiment en dialogue avec les différents schémas. Et donc chaque tableau, chaque période aura aussi sa carte. Voilà l'ambition pour ce travail de représentation à l'échelle du bassin. Et je le redis encore... s'appuyer sur ces travaux, on espère que ça pourra alimenter aussi les capacités de projection à l'horizon 2050 hein, sur cet enjeu de solidarité énergétique territoriale entre la métropole et ses voisins. Quelle pertinence aussi de la notion de voisinage? Est-ce que c'est à une échelle infradépartementale, régionale, nationale, européenne, voire internationale? Évidemment, tout ça doit être re-questionné. Merci.
Alors, je reprends la parole quelques secondes. Pour souligner ici qu'au fond, le projet sera une diapositive 10 pour la porte libre. 2, que dans ton projet par rapport à la chaire et ton projet personnel, on est sur le registre, le micro ne marche pas parce qu'il faut que j'appuie dessus.
Non, si, si, voilà. Donc, que le second élément, c'est un projet sur la néo-électrification. Tu as insisté sur l'électrification des usages réenchantés. Trois, j'insiste, nous insistons, le travail d'infographie est un énorme travail réalisé et coordonné par Rémi avec un maquettiste en même temps. Avec, donc, c'est un travail qui est en évolution, mais c'est un énorme travail technologique et conceptuel en même temps. Et là-dessus, peut-être qu'avant des questions, c'est Rémi qui va faire.
Oui, merci. Effectivement, on a beaucoup survolé, ça a été très rapide. Je précise qu'effectivement, on a un graphiste qui travaille sur les maquettes. C'est pour ça que là, vous voyez un work in progress, comme on dit. C'est moi qui travaille sur ces infographies, puisque c'est quand même une approche que je veux mettre au cœur de ma thèse. J'ai envie que ma thèse de 600 pages ne soit pas lue que par mon comité, mon jury de thèse. Donc j'aimerais l'illustrer par des infographies, des cartographies, puis aussi beaucoup de tableaux, de photos, des images qui incarnent et contrebalancent cette approche systémique de l'histoire de l'énergie qui peut avoir tendance à désincarner l'énergie. Voilà. Je vous remercie Christophe et Cyril pour cette communication à trois voix qui était originale. Et je vous propose effectivement, même si on arrive pile poil à l'heure de la pause, donc on va dire qu'on peut quand même prendre 5-10 minutes pour faire un tour de questions, et puis à l'occasion pour en discuter à la pause ou au sommet. Ouais.
C'est tourné, est-ce qu'il y a des gens qui disent.
Ma question, c'est que vous avez dit qu'en France, au début du XXe siècle, il y avait en gros 50% d'énergie hydraulique. Vous parlez de l'énergie hydraulique au sens large, en mode les moulins à eau, etc. Ou seulement la production électrique à base d'énergie hydraulique.
Bravo, parce que vous êtes étudiant de master, me semble-t-il. C'est bien ça. Donc bravo aux étudiants de master qui posent les premières questions. J'étais moi-même trop rapide et trop imprécis. D'abord, c'est toujours la confusion entre énergie électrique et énergie globale. Je rappelle que c'est la grosse confusion faite par Ségolène Royal et par Nicolas Sarkozy dans leur débat. Donc là, je parlais dans les années 30 et dans l'entre-deux-guerres, dans la production ou la consommation d'énergie électrique. Pendant une vingtaine d'années, il y a à peu près 50-50 dans la source pour la production d'énergie électrique, 50% d'hydraulique, 50% de thermique. Je dis bien d'énergie électrique.
Je précise même, c'est à partir des années 30, c'est même presque à Bordeaux, c'est 90% de l'électricité qui est consommée, qui vient de l'hydroélectricité. Le thermique ne sert qu'à une chose, c'est répondre aux pointes de consommation le matin et le soir. Sinon, les barrages ont l'avantage de donner un courant continu et beaucoup moins cher que celui fourni par le charbon ou par les incinérateurs de déchets qui sont mis en place. Enfin, il y en a un qui est mis en place dans les années 30 à Bordeaux.
Ce qui en soi est très original parce que Bordeaux reste le premier port charbonnier pour l'approvisionnement, et ce qui en soi est très original parce que tout ça c'est grâce à l'interconnexion. Rémi a employé le terme d'interconnexion, à juste titre on pourrait parler d'anachronisme, mais dès les périodes hautes, on a ici un immense spécialiste qui va avoir 30 heures de commentaires avec Michel Bernot.
J'ai une question sur l'utilisation des déchets comme source d'énergie renouvelable. Est-ce que ça pourrait être intéressant de faire le même type de dessin que l'électricité, pour dire qu'évidemment il y a eu de l'énergie qui a été utilisée pour produire ce déchet peut-être?
Oui, effectivement, j'ai mis le déchet dans la catégorie renouvelable qui aujourd'hui on le classifie comme ça, effectivement on se pose vraiment des questions.
Parce que... C'est une façon pour la catégorie thermique considérée comme énergie renouvelable, sinon elle est perdue. C'est aussi de l'énergie pour.
Effectivement. Alors après, c'est qu'il y a aussi une interconnexion entre les gisements et d'autres sources. Comme je le disais au préambule, il n'y a pas de faune et de flore sans soleil. Donc l'énergie solaire est la base de ces gisements. Mais effectivement, par exemple, la place du déchet, ou sinon comment bien montrer que la filière électrique, sa spécificité, c'est que c'est un vecteur l'électricité. C'est vraiment une énergie qui n'a pas de gisement naturel. Le gaz aussi est un autre type de vecteur, mais aujourd'hui on l'assimile beaucoup au gaz naturel, c'est normal, c'est 99,999% du gaz qu'on consomme. Mais techniquement, l'hydrogène est un gaz. On pourrait très bien considérer que le gaz est un vecteur comme l'électricité. Donc il y a beaucoup de réflexions à faire sur ça. Et effectivement, je pense que la question du gisement déchets est à bien valoriser, parce qu'en plus, c'est l'un des plus tardifs à apparaître avec l'uranium.
On vient Michel Pernon, spécialiste du bronze, du cuivre, des alliages.
Il me semble qu'il y a un mot, enfin, je n'ai peut-être pas été suffisamment attentif, qui n'a pas été prononcé, c'est le mot puissance. C'est-à-dire que parler d'énergie, c'est bien, mais il faut aussi parler puissance, c'est-à-dire l'énergie disponible ou consommée, ça dépend de quel côté on se place, par unité de temps. Et ça, c'est complètement déterminant aussi dans l'histoire des techniques. C'est les gains de puissance et les recherches de contrôle de puissance. Parce qu'un propulseur du paléolithique supérieur, ça va augmenter la vitesse initiale, donc ça va augmenter l'énergie du projectile par l'énergie cinétique, mais ça ne va pas augmenter la puissance. Et ça, c'est au niveau conceptuel, il me semble que c'est quelque chose d'important qu'il faudrait faire rentrer dans l'histoire des origines à nos jours.
Effectivement, alors dans les deux textes fondateurs que je... Enfin, deux textes, Servitude de la puissance et Power to the People, donc la notion est là. Et effectivement, c'est tout ce que je dis signé par la question de qualité de l'énergie. Le terme de puissance serait plus adapté. Mais si on revient juste sur la question de la symbolisation, on va dire, de ce mix qu'on met au centre, oui, il y a toute une question sur comment bien montrer non seulement l'énergie utile, mais bien aussi toute l'énergie grise. Moi, je pense que l'énergie finale ou l'énergie primaire, ce n'est pas des indicateurs seuls suffisamment fiables. Donc il y a toute une réflexion aussi à avoir pour bien montrer, oui, que l'efficacité énergétique, elle est croissante, qu'il n'y a pas non seulement une mobilisation plus importante, il y a aussi une énergie qui donne plus de... qui crée plus de richesses, plus de produits, plus de temps libre.
Bien entendu, la puissance, c'est aussi la concentration spatiale par rapport à la redistribution, et puis tout simplement par rapport à l'anglais ou à l'américain. Je rappelle que Thomas Hughes, donc Networks of Power, avec le double sens aussi, énergie, puissance, etc., on a l'aspect aussi géopolitique, mais tu as parfaitement raison, la concentration de la puissance. Plein d'autres questions ?
Non, mais juste d'un point de vue pragmatique, peut-être qu'on pourrait faire évoluer du coup avec aussi les pourcentages de rendement, typiquement.
Alors, il y a le rendement, effectivement.
Moi, ça me fait penser aussi à ça. C'est-à-dire que c'est. J'avais imaginé de le dire, mais j'ai tenu le temps, donc après, il faut faire des choix et donc exclure certaines informations. Mais de fait, par exemple, le chauffage, il y a eu beaucoup de progrès par la contrainte réglementaire, notamment sur tout ce qui est électroménager. Mais c'est aussi le fameux, malheureusement, effet rebond. C'est-à-dire que tout ce qui permet de faire mieux, on le compense par d'autres usages. Donc, il y a aussi effectivement une histoire des rendements qui sont corollaires des enjeux de puissance. Je pense qu'on peut encore, de toute façon, maintenant, sur les derniers tableaux, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, il faut prendre le temps. On a commencé à imaginer aussi avec Rémi là, de justement profiter des compétences numériques qui existent aujourd'hui pour avoir des visions peut-être plus dynamiques, enfin interactives, comme on dit dans le jargon. Donc, peut-être qu'on pourrait aussi imaginer d'avoir quelques chiffres clés. Et pas seulement des filières.
Non seulement des chiffres, mais l'invention, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'un tour alternatif va avoir un rendement deux fois moins bon qu'un tour continu. D'où l'importance de l'invention de la même idée.
C'est ça qui est un
peu. Qu'est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai vu Flavien à Lopresti, monsieur Flavien, et après monsieur.
Ce sera les deux dernières.
Il y avait aussi la question médiatique pour le fort. Oui, je disais, il y a aussi la question médiatique pour le coup, par exemple, le fait de comment est-ce qu'on conçoit le nucléaire aujourd'hui, pourquoi c'est une énergie qui est beaucoup moins mise en avant aujourd'hui, alors que elle permet, bah, elle a des déchets, certes, mais au moins il n'y a pas cette empreinte thermique que pourquoi justement on a choisi l'uranium plutôt que le thorium dans les années 60 finalement. Ce genre de question qui donc en définitive est posée par comment les médias s'emparent du sujet et comment est-ce qu'il est diffusé, politisé.
Il faudrait 8 heures, mais vous avez...
Effectivement, il y a de très bons travaux sur le nucléaire français, généralement faits par des historiens qui ne sont pas français. Voilà. Je pense que la question du nucléaire est toujours aussi présente dans le débat médiatique. Et d'ailleurs, on regarde cette représentation du rapport de force qu'on met dans le compteur. On voit bien que, vu le poids qu'il occupe dans notre mix énergétique, il ne devrait pas être aussi omniprésent dès qu'on parle d'énergie. Et ce que soulignait tout à l'heure Christophe, effectivement, en France, on mélange énergie en général et énergie électrique. Donc, je pense que sur les questions pourquoi la filière nucléaire, depuis 20 ans, oui, depuis le début du XXe siècle et la fin de cette vague de réacteurs qui ont été faits en France, est remise en question et n'a plus autant la cote, je pense que là, effectivement, on pourrait consacrer un colloque. Mais moi je soulignerais que médiatiquement le poids du nucléaire est toujours largement plus important que son importance dans notre mix énergétique, même si c'est la troisième source d'énergie après le pétrole et le gaz naturel. Et en énergie primaire, le nucléaire c'est 40% du mix énergétique, mais en réalité on n'utilise pas toute la chaleur dégagée par la fusion, donc c'est pas forcément l'info la plus pertinente.
60% de l'approvisionnement électrique.
Oui, je disais que finalement, l'énergie, aussi l'énergie économisée, c'est l'énergie
qui est dessus.
Et pourquoi on n'est pas très logique dans ces économies. Je vais prendre l'exemple, on parlait de l'éclairage d'Internet, etc. Voir un film en streaming, c'est 1 kWh, c'est-à-dire en gros un radiateur. Et actuellement, on s'oppose à l'aéronautique, à les transports aériens. Le streaming plus les jeux en ligne, c'est 2% de la consommation mondiale d'énergie. C'est-à-dire, au plus maintenant que l'aéronautique et tout le transport aérien sur lequel on fait un scandale actuellement. Et personne ne va diminuer sa consommation. Économiser, supprimer 30 messages dans sa boîte, c'est la consommation d'une lampe électrique pendant toute l'année. Donc, c'est pourtant, ce développement de l'économie, on ne la fait pas plus. Et qu'on laisse dériver complètement des consommations totalement inutiles. Si vous regardez des films et qu'on ne regardera jamais, ça ne sert à rien.
Ça, vous avez parfaitement raison. Cette prise de conscience n'est que relativement récente. Il y a des spécialistes.
Oui, là-dessus, bah, effectivement, je pense que vous avez mis le doigt sur l'enjeu d'une dixième diaporama. Hein. C'est la transition énergétique actuelle. L'enjeu, plus que de savoir comment on va produire l'énergie, c'est combien on en consomme. Le premier pilier, c'est diminuer nos consommations, augmenter l'efficacité énergétique et ensuite décarboner et dénucléariser en fonction des points de vue. Donc effectivement, moi je pense que si la question des économies n'est pas montrée ici dans cette diaporama, c'est parce qu'en réalité, pour le moment, elle n'est pas... cette période-là, elle n'a pas été vraiment prise en compte. L'exemple que je prendrai, c'est la mise en place de Bordeaux Métropole Énergie l'année dernière, qui est enfin chargée de la rénovation thermique. La rénovation thermique, ça fait 20 ans que les gouvernements font des plans. Dans les faits, elle n'a jamais été lancée. Donc oui, je pense que vous soulignez le pilier, l'enjeu principal sur les questions énergétiques de la transition énergétique actuelle.
Et cette question-là, elle n'est à l'agenda que depuis 2 ans à peu près. La question des serveurs en même temps, vous avez parfaitement raison. Ce sont des gisements considérables.
Bon, ben, je vous remercie tous et je vous propose de prendre 20 minutes de pause avant d'enchaîner sur la table ronde.